Bien, tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Édouard Barre pour l'invitation. Je suis content d'avoir pu traverser la frontière franco-belge et donc d'être physiquement présent ici. Le titre original de ma présentation, c'est donc « Le flux de carbone des continents vers l'océan ». Mais j'ai choisi de la reformuler un petit peu « Les boucles continent-océan du cycle global du carbone ». Alors je pense que ce titre est sans doute un petit peu mystérieux. J'espère lever une partie du voile dans les minutes qui viennent. Alors pour commencer, laissez-moi peut-être mettre un contexte à ma présentation, et pour cela de revenir, je dirais, à une quinzaine d'années en arrière, plus spécifiquement 2007, année de publication du quatrième rapport de l'IPCC, le rapport du GIEC. Alors cette figure, en fait, synthétise la vision que nous avions du cycle global du carbone à l'époque, non seulement dans sa composante naturelle, les flèches en noir, mais également dans sa composante anthropique, les flèches en rouge, dominées donc par les émissions associées à la combustion d'énergie fossile. Alors mon objectif ici n'est certainement pas de discuter avec vous de chacun de ces flux, je vais me focaliser bien entendu sur ce qui me concerne au premier chef, ou nous concerne au premier chef, la connexion continent-océan entourée en jaune sur cette figure. À l'époque, la vision était que les rivières délivrent globalement 0,8 pétagrammes de carbone chaque année vers l'océan ouvert, environ 50% provenant des écosystèmes terrestres, principalement sous forme organique, les autres 50% provenant de l'altération des surfaces continentales, les roches carbonatées, les roches silicatées. Un premier changement de paradigme majeur eut lieu à la fin des années 2000, suite à la publication d'un article qui s'appelait « The Boundless Carbon Cycle ». Et en fait, le changement de paradigme impliquait qu'il ne fallait plus considérer les zones continentales comme des systèmes de transfert passif de carbone depuis les continents vers les océans, mais en fait comme des réacteurs chimiques, comme des réacteurs biologiques, transformant de grandes quantités de carbone, accumulant de grandes quantités de carbone. Et en conséquence, ce qui a pu être diagnostiqué, c'est qu'en fait les eaux continentales sont de forts émetteurs de carbone vers l'atmosphère, principalement sous forme de CO2, également aussi sous forme de méthane. Une autre conséquence très importante a été de diagnostiquer que la quantité de carbone délivrée par les écosystèmes terrestres vers les eaux continentales était significativement supérieure à la quantité de carbone exportée des rivières vers l'océan ouvert. Alors ce changement de paradigme majeur a été rapidement adoubé par la communauté internationale et a en fait été intégré dans le cinquième rapport de l'IPCC, le cinquième rapport du GIEC, publié en 2013, où vous pouvez effectivement constater qu'au niveau de la transition continent-océan, les exports de carbone des sols vers les rivières sont significativement supérieurs à l'export de carbone depuis les rivières vers l'océan ouvert. Alors, est-ce que ça clôture le débat? De mon point de vue, la réponse est non, et je voudrais vous attirer votre attention sur deux points spécifiques. Le premier point spécifique, c'est tout d'abord que la connexion continent-océan a été ici prise en compte essentiellement au travers du rôle des eaux continentales, pour faire simple, rivières, lacs, réservoirs. Et le deuxième aspect, qui n'est peut-être pas tout à fait évident à voir sur cette figure, c'est que si vous analysez en détail les flux qui caractérisent cette connexion continent-océan, vous verrez qu'ils sont caractérisés par des flèches noires, et en fait, ces flèches noires représentent des flux naturels. En d'autres termes, il a été considéré que la connexion continent-océan est caractérisée par des transferts de carbone qui sont naturels, non perturbés par les activités humaines. Alors, récemment, différentes études ont adressé ces deux points spécifiques, en me focalisant tout d'abord sur le premier, donc c'est-à-dire la notion du rôle de la connexion continent-océan exclusivement prise en compte par les eaux continentales. On a proposé une vision plus large qui, en anglais, s'appelle la vision du Land-to-Ocean Aquatic Continuum, le continuum aquatique continent-océan, LOAC en cours, et donc qui indique que non seulement ce sont les rivières, les lacs et les réservoirs qui modulent les flux de carbone lorsque ce carbone est transféré des écosystèmes terrestres vers l'océan ouvert, mais qu'il existe aussi toute une série d'écosystèmes en transition qui vont également affecter ces flux de carbone, notamment la végétation côtière et les estuaires, mais également l'océan côtier qui, au premier ordre, représente environ 7% de la surface globale des océans. Alors la représentation de ce Land-to-Ocean Aquatic Continuum, le LOAC, c'est en fait les flux qui sont, la portion des flux qui sont entourés par la boîte rouge, je ne vais pas non plus en discuter tous les détails avec vous, le seul point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est de vous focaliser sur les échanges avec l'atmosphère, et ce que vous pourrez constater, c'est que cette connexion continent-océan est caractérisée par une succession complexe de sources et de puits pour l'atmosphère, rendant son intégration particulièrement complexe dans le bilan global du carbone. Pour ce qui concerne l'autre aspect, c'est-à-dire la considération que les flux de carbone sont en fait des flux totaux, mais exclusivement naturels, je souhaite poser la question au travers de nouveau de ce budget anthropique tel que synthétisé par le Global Carbon Project. C'est en fait une formulation un peu différente, mais vous l'avez vu à plusieurs reprises, ce bilan du Global Carbon Project. Ici, c'est pour une tranche temporelle bien déterminée, les années 2000-2010. Malheureusement, les chiffres devraient être revisités si on voulait faire pour une période plus récente. Qu'est-ce qu'on peut analyser très brièvement ? À gauche, vous avez les émissions anthropiques associées à la combustion d'énergie fossile au changement d'occupation des sols. Au centre, vous avez l'accumulation de ce carbone anthropique dans l'atmosphère, un peu moins de 50%, une valeur qui est très bien contrainte par un réseau global de mesures. Et puis à droite, vous avez la captation, la capture de carbone anthropique, non seulement par les écosystèmes terrestres, mais également par l'océan vert, tel que discuté par Claire Le Monaco il y a quelques instants. Alors, que peut-on diagnostiquer sur cette figure ? Eh bien, qu'il manque effectivement une connexion directe entre les écosystèmes terrestres et l'océan ouvert, et ceci implique donc qu'on a fait l'hypothèse que ces flux sont des flux naturels non perturbés par les activités humaines. Alors, ce point est particulièrement important parce que c'est aussi la logique qui est adoptée par les modèles système Terre, en anglais Earth System Models, qui sont bien entendu donc les modèles qui sont utilisés que pour réaliser les projections climatiques synthétisées dans les rapports du GIEC. De par leur construction même, ces modèles système Terre font l'hypothèse que les rétroactions continent-océan ne se déroulent qu'au travers du réservoir atmosphérique. Vous n'avez pas de connexion directe entre le réservoir continental et le réservoir océanique. Alors, est-ce que cette vision a été en partie révisée ? Je vous dirais oui, essentiellement au travers peut-être d'une approche conceptuelle qui nécessitera certainement encore révision au cours des années à venir, et j'y reviendrai à plusieurs reprises dans ma présentation. Donc, ce qui est présenté ici, c'est l'idée que nous devrions considérer le budget global du carbone, anthropique, comme un système à quatre réservoirs, non seulement l'atmosphère, l'océan ouvert, les écosystèmes terrestres, mais d'incorporer le Land to Ocean Aquatic Continuum, le LAOAC, comme un réservoir de carbone à part entière. Et en fait, l'analyse qualitative ou quantitative vous montre que les écosystèmes terrestres exportent des quantités considérables de carbone vers ces systèmes de transition, le LOAC, de l'ordre peut-être de 1 pétagramme de carbone par an, en prenant bien compte qu'ici, nous parlons maintenant cette fois-ci de carbone purement anthropique. Le devenir de ce carbone anthropique, c'est une réémission vers l'atmosphère en partie, une séquestration in situ dans les sédiments du LOAC, et une faible fraction étant ensuite exporté vers l'océan ouvert. Comme je vous l'ai dit, c'est une contextualisation, c'est une vision schématique qui nécessitera certainement révision, notamment en termes quantitatifs. Je pense qu'avec ceci, j'ai terminé la contextualisation de ma présentation et je souhaite maintenant aborder quatre aspects particuliers. D'une part, des progrès concernant la quantification des budgets du carbone du continuum continent-océan en se focalisant sur la variabilité spatiale. Quelques mots sur la variabilité temporelle des flux et des contrôles environnementaux du cycle du carbone, et puis une partie sans doute plus spéculative concernant les contraintes émergentes sur le budget anthropique du carbone continent-océan, et enfin vous fournir une vision intégrée qui fera le lien avec le titre de ma présentation. Alors, concernant le premier point, donc quantification des budgets du carbone du continuum continent-océan, je vais surtout me focaliser ici sur la variabilité spatiale, et j'ai fait le choix de me focaliser sur les échanges de CO2 avec l'atmosphère. Ce n'est pas arbitraire, je pense que c'est le domaine dans lequel les progrès les plus importants ont été réalisés au cours de la dernière décennie. Cette figure ici vous illustre la première climatologie à haute résolution spatiale des émissions de CO2 des eaux continentales. Alors, c'est une climatologie qui a été générée à partir de données observationnelles. Elle couvre globalement deux décennies, la période 1990 à 2010, et combiné à ces données observationnelles, des méthodes géostatistiques et puis des simulations dites de Monte Carlo pour contraindre les incertitudes ont été utilisées. Et donc, qu'est-ce qui peut être constaté ? C'est que Les patterns spatiaux des émissions des eaux continentales sont assez différents. Vous voyez que pour les rivières, vous avez une dominance claire et forte des régions tropicales, alors que pour les lacs, le pattern est plus complexe, mais cependant, vous pouvez quand même diagnostiquer une dominance de la région boréale. La carte à droite, en fait, combine ces émissions pour ce qui pourrait représenter, je dirais, des émissions continentales globales, et vous voyez que, à l'heure actuelle, les eaux continentales émettent de l'ordre de 1 pétagramme de carbone par an, avec une incertitude comprise entre plus ou moins 0,3 pétagramme de carbone par an. Alors, est-ce que ça conclut la problématique des émissions de CO2 des eaux continentales? Ma réponse serait plutôt non, parce qu'en réalité, cette carte n'est pas complète. Il manque notamment les rivières d'ordre 1 et 2, c'est-à-dire les petites rivières. Il manque également les petits lacs, qui sont en fait des systèmes qui, par unité de surface, émettent des quantités de dioxyde de carbone tout à fait considérables. Un autre aspect qui n'est pas pris en compte, c'est le rôle des plaines inondables, les floodplains en anglais, qui sont particulièrement complexes à intégrer parce qu'elles sont intimement à l'interface entre écosystèmes terrestres et écosystèmes aquatiques. Je vais maintenant me déplacer un tout petit peu vers l'aval et très brièvement me focaliser sur la contribution des estuaires et de la végétation côtière au bilan du CO2 de la transition continent-océan. Alors la partie gauche de la figure ici illustre des estimations d'émissions de CO2 par les estuaires. Il ne fait aucun doute que les estuaires sont des sources de CO2 pour l'atmosphère. Par contre, si vous regardez l'historique des estimations, vous verrez qu'au fur et à mesure que les bases de données sont devenues de plus en plus complètes, en partie aussi moins biaisées, eh bien, ce que vous voyez, c'est que le taux d'émission ou la valeur d'émission a diminué au cours du temps. Elles étaient aux alentours de 0,4 pétagrammes de carbone par an au début des années 2000, alors que les estimations les plus récentes suggèrent que peut-être les estuaires n'émettent pas plus que de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an. En parallèle à ces estimations de CO2 émises par les estuaires, un effort considérable a été réalisé sur le rôle de la végétation côtière. Vous avez peut-être tous entendu parler de la problématique du carbone bleu. Je pense que c'est comme ça qu'on traduit ça en français. Vous savez, en Belgique, on est plus facilement intégré par les anglicismes. Nous, on appelle ça la communauté blue carbon. Mais donc, j'imagine que c'est carbone bleu en français. Que nous dit ce travail de la communauté carbone bleu? Eh bien, que la végétation côtière, c'est-à-dire, par exemple, les mangroves, capte des quantités tout à fait considérables, fixe des quantités tout à fait considérables de carbone depuis l'atmosphère, peut-être jusqu'à une valeur de l'ordre de 0,45 pétagrammes de carbone par an. Quel est le devenir de ce carbone? Il va tout d'abord être séquestré in situ, et ça c'est un aspect sur lequel cette communauté travaille particulièrement. Je dirais que moi, dans le cadre de ma présentation, c'est surtout l'autre aspect qui m'intéresse. Ce que je vous souhaite mettre en évidence, c'est que ce carbone fixé par la végétation côtière est en fait en grande partie exporté, et parfois exporté sur des distances considérables. L'exemple type, c'est une étude réalisée dans l'Atlantique Sud, en bordure des côtes sud-américaines, et qui a diagnostiqué que si vous analysez la matière organique dissoute que vous trouvez dans ce bassin océanique, eh bien cette matière organique dissoute, sa source principale, ce n'est pas les écosystèmes terrestres, ce n'est pas une production in situ par les organismes marins, c'est en fait ces écosystèmes de transition, spécifiquement les mangroves, qui amènent de grandes quantités de carbone organique dissous sur des distances tout à fait considérables. Toujours en me déplaçant un petit peu vers l'aval, laissez-moi maintenant me focaliser brièvement sur la variabilité spatiale des émissions de CO2 de l'océan côtier. Il ne fait aucun doute que c'est l'écosystème pour lequel les progrès les plus importants ont été réalisés, dans le contexte, bien entendu, continent-océan, et ceci grâce à l'effort magistral de la communauté océanographique dite SOCAT, qui a compilé une base de données tout à fait gigantesque de mesures de pression partielle de CO2 dans l'océan de surface. En fait, notre groupe de recherche a pu bénéficier de plus de 8 millions de mesures que pour réaliser cette climatologie de la pression partielle de CO2 de l'océan côtier. C'est une climatologie à haute résolution spatiale, un quart de degré, et qui cette fois-ci couvre une période bien déterminée, 1998 2015. En fait, elle couvre, si vous voulez, la période pour laquelle les données observationnelles sont disponibles. Alors, c'est des techniques sophistiquées qui ont été utilisées que pour réaliser une cartographie continue, c'est ce qu'on appelle la méthode en réseau de neurones. Pour illustrer le progrès, c'est peut-être d'insister sur le fait que cette climatologie, donc maintenant, se base sur plusieurs millions de données, alors que précédemment, la manière dont on contraignait le rôle de l'océan côtier dans le bilan global du carbone était essentiellement basé sur peut-être moins de 100 mesures à l'échelle locale. Donc il y a là une explosion, si vous voulez, du nombre de mesures et donc de contraintes pour mieux spécifier quel est le rôle de l'océan côtier dans le bilan carbone global. Alors, ceci, c'est en fait le résultat de cette climatologie. Vous avez donc la pression partielle de CO2. C'est parfait, ça a été expliqué à plusieurs reprises. Vous pouvez passer de pression partielle de CO2 à un flux de CO2 en prenant en compte les vitesses d'échange. Et la carte en haut à gauche, en fait, vous montre la première climatologie haute résolution des flux de CO2 d'échange entre l'atmosphère et l'océan côtier. La première chose que vous pouvez constater, c'est qu'à l'inverse des eaux continentales ou des estuaires, l'océan côtier est en fait un puits de carbone pour l'atmosphère de l'ordre de 0,2 pétagramme de carbone par an. Au travers de cette climatologie, on peut aussi déterminer une première distribution latitudinale, telle que montrée ici. Vous voyez que les régions polaires et subpolaires sont plutôt des puits pour l'atmosphère, alors que les régions tropicales sont de faibles sources. Ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est la figure ici, qui compare le taux d'émission par unité de surface entre l'océan côtier et l'océan ouvert. Alors, c'est une question qui a été longuement débattue au sein de notre communauté. Et moi, je conclurai qu'au premier ordre, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'en fait, la distribution latitudinale du taux d'émission de l'océan côtier n'est pas fondamentalement différente de celle de l'océan ouvert. Alors, par ailleurs, vous voyez que nous pouvons aussi réaliser maintenant une analyse sur base, je dirais, des grands types de systèmes côtiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, avant de conclure cette partie sur la spatialisation, je ne peux résister à vous montrer cette carte. Et en fait, elle n'est pas tout à fait à jour, elle n'a pas tout à fait été bénéficiée, je dirais, de ce que je viens de vous montrer précédemment. Mais enfin, au premier ordre, elle reste valable. Que représente cette carte? En fait, c'est la combinaison des émissions de CO2 des systèmes du continuum LOAC, donc continent-océan, qui a été combinée à ceux de l'océan ouvert, montré précédemment aussi par les précédents orateurs. Et donc, qu'est-ce que cette carte vous montre? En fait, elle vous montre une synthèse des flux d'échange de CO2 avec l'atmosphère pour l'ensemble des systèmes aquatiques, depuis les petites rivières jusqu'au centre des grandes gyres océaniques. C'est en fait les émissions ou les puits pour ce que j'appellerais la planète bleue. Alors, c'est un système complexe de patterns, hein, donc avec des sources et des puits. Mais cependant, ce que vous pouvez peut-être diagnostiquer, c'est une dominance assez cohérente de la région tropicale comme une source au travers de l'ensemble des systèmes aquatiques, depuis les rivières jusqu'à l'océan ouvert. Quelques instants maintenant consacrés à la variabilité temporelle des flux du LOAC et des contrôles environnementaux de ce cycle, notamment toujours en lien avec les apports continentaux. Alors j'ai décidé de faire un zoom sur l'océan côtier, et ce choix n'est pas arbitraire, parce que si vous me posiez la question de la temporalité, par exemple, des flux d'échange des eaux continentales, je ne pourrais pas vous répondre à cette question, en tout cas à l'échelle globale. À l'heure actuelle, nous n'avons pas à notre disposition des outils observationnels nous permettant de résoudre la saisonnalité des émissions de CO2 pour l'entièreté du réseau hydrographique continental. Et en fait, la même conclusion pourrait être tirée des estuaires ou de la végétation côtière. La temporalité reste essentiellement non résolue. La situation est maintenant différente pour l'océan côtier, notamment au travers donc de l'effort de la communauté internationale SOCAT, et qui nous permet pour la première fois de résoudre les variabilités saisonnières des flux d'échange entre l'atmosphère et l'océan côtier. C'est ce qui est montré par cette animation, la figure à droite vous montrant en fait l'amplitude du signal saisonnier. Qu'est-ce qui peut être conclu? Donc c'est une temporalité qui est résolue à l'échelle mensuelle, et ce qui peut être conclu, c'est que la variabilité temporelle des flux d'échange entre l'atmosphère et l'océan côtier est de la même amplitude que les variabilités spatiales. Ce qui a pu être aussi déterminé, c'est que l'océan côtier est en fait un puits pour l'atmosphère, quelle que soit la saison. Et il est dominé par la période estivale, suivie par la période printanière, essentiellement due à la prédominance du puits des régions polaires, ce qui en fait un pattern temporel assez différent de celui de l'océan ouvert, qui lui est plutôt dominé par une captation hivernale. Alors, ce que je n'ai pas montré, mais qui est peut-être aussi important, qu'est-ce qui contrôle cette variabilité saisonnière? Si vous en feriez une analyse, vous pourriez conclure que le facteur principal de la variabilité saisonnière est en fait induit par le gradient de pression partielle de CO2 entre la colonne d'eau océanique et l'atmosphère. En fait, principalement, la variabilité de la pression partielle de CO2 de l'océan côtier. Alors, la question évidemment suivante qu'on s'est posée, c'était de savoir: qu'est-ce qui détermine cette variabilité de la PCO2 côtière? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre uniquement à l'aide de données observationnelles. On veut essayer de savoir, est-ce que les processus sont dominés par les variations de température? Est-ce que la variabilité saisonnière est dominée par l'effet de température, l'effet de la biologie, l'effet de la pompe biologique, où est-ce qu'elle est dominée par d'autres phénomènes physiques, par exemple comme le transport. Alors pour répondre à cette question, vous avez besoin d'un modèle, et c'est ce que nous avons réalisé en utilisant un modèle qui s'appelle MOM6-COBALT, qui est le modèle développé par l'Université de Princeton. Avant d'en faire l'analyse, nous avons bien entendu évalué les performances du modèle, et c'est ce qui est montré sur la carte en bas à gauche. Ceci, c'est une comparaison du biais introduit, ou plutôt du biais entre les résultats du modèle et les résultats des données, les données, celles que je vous ai montrées précédemment. En fait, on a utilisé trois critères pour évaluer la performance du modèle: sa capacité à reproduire les valeurs moyennes de pression partielle de CO2, sa capacité à reproduire l'amplitude du signal saisonnier et sa capacité à reproduire la temporalité, si vous voulez, du signal saisonnier. Et la carte en haut à droite vous montre toutes les régions où le modèle performe relativement bien. Donc toutes les régions en pointillé ou en hachuré sont des régions de l'océan côtier où les résultats du modèle sont considérés comme satisfaisants. Et nous avons combiné ça aussi avec un index de couverture en données, puisque nous évaluons notre modèle par rapport à des données, donc c'est aussi un critère important. Pour faire les choses simplement, par exemple, ce que vous pourriez conclure, c'est que les résultats du modèle seront particulièrement fiables pour l'Atlantique Nord, alors que les résultats qu'on obtient pour l'océan Indien, eh bien, le sont nettement moins. Alors, les premiers résultats, ce sont ceux qui sont montrés sur la figure en bas à droite, vous montrent que dans les régions polaires et subpolaires, la couleur verte vous indique que le facteur dominant expliquant la saisonnalité de la PCO2 de l'océan côtier, c'est la pompe biologique, c'est l'activité biologique qui domine ce signal. Alors que dans les régions tropicales, c'est plutôt l'effet thermique, c'est-à-dire les variations de température, même si elles sont relativement faibles, qui dominent la saisonnalité du signal saisonnier. D'autres régions, par exemple, comme les zones de poiling, étant elles dominées plutôt par les processus de transport. Alors je souhaite maintenant un petit peu élargir le débat, plus exclusivement me focaliser sur l'échange air-mer, mais essayer de me focaliser sur la dynamique du cycle du carbone côtier dans sa globalité. Alors la figure à gauche me paraît importante. Qu'est-ce qu'elle vous rapporte? Elle vous rapporte le temps de résidence des masses d'eau sur la zone côtière, c'est-à-dire sur le plateau continental, la zone la moins profonde de l'océan. Alors ce sont deux résultats de simulation tridimensionnelle océanique. La première chose que vous pourriez constater, c'est que les résultats sont relativement en bon accord. La deuxième chose que vous pourriez constater, c'est que le temps de résidence des masses d'eau sur l'océan côtier est très variable, de moins de quelques semaines à plusieurs années, mais que de mon point de vue, dans le cadre de ma présentation, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est que le temps de résidence moyen sur l'océan côtier est significativement plus court que celui qu'on avait traditionnellement imaginé, notamment au travers de l'utilisation de ce qu'on appelle des modèles de boîte, c'est-à-dire des modèles qui ne sont pas résolus physiquement. Le temps de résidence était proposé à plusieurs années par le passé, alors que nous arrivons plutôt à une valeur moyenne de quelques mois, ce qui indique qu'en fait que l'échange entre les masses d'eau de l'océan vert et de l'océan côtier sont beaucoup plus intenses que précédemment anticipés. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce temps de résidence relativement court, combiné à des données observationnelles qui montrent que la réactivité de la matière organique provenant des continents et déchargée vers les océans est plus réfractaire, moins facilement dégradable que précédemment anticipé, nous permet de suggérer qu'en fait, une quantité tout à fait non négligeable de matière organique terrestre, ici c'est la matière organique terrestre dissoute, ce qu'on appelle la terrestrial dissolved organic matter, en fait, cette matière organique terrestre n'est pas dégradée in situ sur l'océan côtier, mais est en fait exportée de manière assez efficace vers l'océan ouvert. Quelles sont les conséquences de cette constatation? Eh bien, ça a une conséquence sur une question qui a été dominante, qui reste dominante d'ailleurs dans la communauté de l'océanographie côtière, et qui est de savoir, c'est une question assez fondamentale, quel est l'état trophique de l'océan côtier? Est-il net autotrophe ou est-il net hétérotrophe? Un système net autotrophe implique que la production primaire in situ est supérieure à la respiration totale de la matière organique, qu'elle soit produite in situ ou qu'elle soit importée, et dans le cas de l'océan côtier, une grosse fraction de la matière organique importée provient bien entendu des continents. Eh bien, nos résultats suggèrent que l'océan côtier dans sa globalité serait net autotrophe, à une valeur d'environ 0,2 à 0,3 pétagrammes de carbone par an. La productivité primaire est plus importante que la respiration, ceci principalement dû à une pompe biologique particulièrement intense au niveau de la portion la plus externe du plateau continental, des shells, soutenu notamment par les apports de nutriments inorganiques, mais aussi donc par cet export particulièrement efficace de matière organique terrestre au travers des shells exportés vers l'océan ouvert. Et donc ceci peut être contrasté avec la vision traditionnelle. Je dirais qu'en termes qualitatifs, les résultats sont relativement en accord, mais qu'en termes quantitatifs, les premiers résultats de simulation tridimensionnelle, donc des modèles biogéochimiques et physiques, indiqueraient un degré d'autotrophie pour l'océan côtier plus important que celui qu'anticipait précédemment. Je crois qu'avec ça, j'ai terminé, je dirais, la partie la plus déterministe de ma présentation. Maintenant, je souhaite rentrer dans un contexte sans doute un petit peu plus spéculatif et me focaliser sur ce que j'appelle donc les contraintes émergentes sur le budget anthropique du carbone. En fait, c'est une analyse des tendances à long terme. Et cette fois-ci, je vais refaire un zoom sur le LOAC, c'est-à-dire je vais choisir quelques exemples que j'espère relativement bien choisis, couvrant l'entièreté du continuum continent-océan. Alors, la première question à laquelle je veux m'atteler est la suivante. Donc, je remets de toute façon tout d'abord cette analyse dans le contexte du schéma conceptuel proposé précédemment. Et la première question à laquelle je veux m'atteler, avons-nous des évidences qui nous permettraient d'affirmer qu'à l'échelle globale, il y a une accélération du transfert de carbone des écosystèmes terrestres vers le LOAC, induit par les activités humaines? Alors, au moment où je vous parle, nous n'avons pas de réponse ferme et définitive sur cet aspect. En fait, cette analyse n'est à l'heure actuelle réalisée qu'à l'échelle régionale. Et d'autre part, c'est aussi un aspect qui restera toujours un peu spéculatif, dans le sens où c'est très difficile à l'heure actuelle d'avoir des données observationnelles nous permettant de contraindre l'évolution temporelle de ces flux. Et donc, nous faisons appel à des modèles système Terre qui, pour la première fois, intègrent le réseau hydrographique continental à la dynamique de la biosphère terrestre. Et donc, ces modèles système Terre, c'est ce que je les ai appelés de la canopée à l'océan. Et les résultats que je vous montre, ce sont des résultats obtenus par notre groupe de recherche pour les deux plus grands bassins versants de la région tropicale, à gauche l'Amazone, à droite le bassin du Congo. La carte du milieu vous fournit le taux d'émission par unité de surface de ces deux grands bassins versants, non seulement les émissions des rivières, mais également les émissions des plaines alluviales connectées. Et si vous faites la somme de tout, vous voyez que ces deux bassins versants, à eux seuls, émettent un pétagramme de carbone par an, avec une dominance des plaines inondées. De part et d'autre, vous avez l'évolution temporelle des flux, non seulement de dégazage, outgassing, mais également d'export vers l'océan, pour la période historique, 1850 jusqu'à nos jours, et en projection jusqu'à l'horizon 2100. À gauche pour l'Amazone, à droite pour le Congo. Et pour le Congo, j'ai aussi rajouté une figure qui illustre notre capacité à attribuer, c'est-à-dire à diagnostiquer, quels sont les facteurs environnementaux qui conduisent à une évolution. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est tout d'abord, les résultats de nos modèles indiquent qu'il y a bien un accroissement du transfert de carbone des écosystèmes terrestres vers le réseau hydrographique régional, de l'ordre de 10% pour l'Amazone, de l'ordre de 26% pour le Congo, et un résultat que je ne vous montre pas, mais on a aussi fait des études pour un système boréal, le bassin de l'Alena, pour lequel l'augmentation est de 30%. Ces augmentations font spécifiquement référence à la période historique, c'est-à-dire entre conditions pré-industrielles et conditions contemporaines. L'analyse d'attribution nous indique qu'en fait, le facteur dominant de cette évolution, c'est en fait l'augmentation de la productivité terrestre induite par l'effet de fertilisation. Ça, c'est le facteur qui domine sur l'ensemble des bassins que nous avons étudiés. Et en fait, la variabilité que l'on peut observer, par exemple, entre Amazone et Congo, est plutôt à attribuer à une réponse différenciée du cycle hydrologique aux perturbations humaines ou aux perturbations environnementales. Un point peut-être aussi qui est important, qui n'était peut-être pas évident il y a quelques années, c'est que pour ces deux bassins versants, l'impact du changement d'occupation des sols, le land use change, n'a qu'une influence relativement mineure sur les flux latéraux de carbone. Un autre point sur lequel je voudrais très brièvement vous présenter, c'est quels sont les biais qui sont introduits dans les modèles système Terre. Donc, je vous rappelle, ce sont ceux qui sont utilisés pour réaliser les projections climatiques. Quels sont les biais qui sont introduits lorsque vous ignorez le rôle des eaux continentales? Et ceci est fait pour le bassin de l'Amazone, où nous avons comparé à gauche un modèle système Terre qui prend explicitement en compte le rôle des rivières, c'est les résultats que je viens de vous montrer il y a un instant, et à droite, un modèle système Terre traditionnel qui ne prend en compte que la présence des écosystèmes terrestres. Alors, en quelques mots, ce que l'on peut constater, c'est que le biais total introduit par l'omission du rôle des rivières sur le cycle global du carbone, il est dimensionné plus ou moins à l'export latéral de carbone vers l'océan. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est que la partition de ce biais entre ce qu'on appelle le net ecosystem exchange, c'est-à-dire la captation de carbone atmosphérique par les surfaces continentales et d'autre part la capacité de séquestration de carbone par les écosystèmes terrestres, eh bien, cette subdivision entre ces deux processus ne peut être obtenue, ne peut être quantifiée qu'en ayant des modèles système Terre qui prennent en compte le rôle des rivières. Alors ça, c'est un peu technique. Ce qui est peut-être le plus important, au bout du compte, c'est la dernière phrase qui vous montre que systématiquement, les modèles système Terre utilisés pour les projections climatiques vont sous-estimer le net écosystème exchange et surtout vont systématiquement surestimer la capacité de séquestration de carbone par les écosystèmes terrestres. Donc ça, c'est un point qui rejoint un peu, en tout cas, le schéma conceptuel. L'autre point que je voudrais discuter avec vous concernant les perturbations anthropiques, nous venons de mettre en évidence que nous avons une forte accélération du transfert de carbone des écosystèmes terrestres vers le réseau hydrographique continental, et on pourrait se poser la question de savoir si cette perturbation va se propager jusqu'à l'océan ouvert. Bien, la réponse est plutôt non, parce que les systèmes du LOAC vont avoir tendance à amortir l'ampleur de cette perturbation. Et notamment, un mécanisme important par lequel la perturbation va être amortie, c'est au travers de la gestion du réseau hydrographique global, notamment au travers de la construction de réservoirs et de barrages. Alors, c'est aussi un aspect que nous avons essayé de quantifier, c'est ce qui est illustré sur cette figure. Les deux figures du bas vous montrent la situation du réseau hydrographique global, mais uniquement pour la portion qui est interceptée par au moins un réservoir. Donc vous voyez que dans les années 70, en se focalisant exclusivement que sur les grands réservoirs, vous aviez environ 4000 barrages et réservoirs. Et vous voyez qu'à l'horizon 2030, la figure de droite, il est projeté qu'il y aura plus de 10 000 réservoirs, tel qu'illustré sur la figure ici en haut à droite, qui vous montre les barrages en construction, mais également les barrages qui sont planifiés pour les décennies à venir. Les petits diagrammes en camembert, en fait, vous illustrent la fraction du carbone provenant des écosystèmes terrestres ou générés in situ, qui est en fait interceptée par un barrage. Vous voyez que dans les années 70, on était peut-être aux alentours de 15%, alors qu'en projection, à l'horizon 2030, peut-être presque la moitié du carbone provenant des écosystèmes terrestres ou générés in situ sera intercepté par au moins un barrage. L'effet de cette gestion ou de ce management hydraulique considérable a un impact sur le bilan du carbone, et le résultat essentiel est présenté ici, c'est que vous avez un accroissement d'environ un facteur 4 de la capacité de séquestration de carbone dans les sédiments du réseau hydrographique continental, et ceci seulement sur une période de 60 ans, 1970-2030, ce qui pourrait correspondre à une perturbation de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an. Alors, peut-être point de détail, bien entendu, la perturbation n'est pas exclusivement contrôlée par le management hydraulique ou par la gestion hydraulique, elle est aussi contrôlée par l'évolution du climat, mais également par les apports continentaux qui sont en changement permanent. Quand vous transformez un écosystème forestier en une zone agricole, vous augmentez en général très fortement la capacité d'érosion des sols. Dernier point que je souhaite couvrir avec vous, celui-ci concerne la capacité de l'océan côtier à capter du CO2 d'origine anthropique. Alors je vous rappelle, il y a quelques instants, je vous ai montré que maintenant nous avons de fortes évidence observationnelle pour affirmer que l'océan côtier est un puits pour le CO2 atmosphérique et que son ordre de grandeur est d'environ 0,2 pétagramme de carbone par an. Mais qu'en est-il de la perturbation anthropique? Eh bien, au moment où je vous parle, c'est un sujet qui est intensément débattu, notamment parce que les observations et les modèles se contredisent fortement. Les résultats à gauche, ce sont les observations. Et que vous disent les observations? Ce sont des séries temporelles qui ont été reconstruites. Elles vous disent que sur base de surface unitaire, l'océan côtier serait un puits plus important que l'océan ouvert, par unité de surface, bien entendu. Si vous intégrez sur l'entièreté de l'océan côtier, vous arriveriez peut-être à un puits anthropique de l'ordre de 0,2 pétagramme de carbone par an sur une période seulement de 60 ans, 1950-2010. Ben, les modèles sont en contradiction fondamentale avec ces résultats. Ils vous indiquent que sur base de surface unitaire, l'océan côtier serait moins intense que celui de l'océan ouvert. Donc c'est un puits anthropique ici dont je parle, et dont son ampleur, le puits anthropique, serait de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an. C'est la perturbation, mais cette fois-ci depuis le début de la période industrielle, couvrant donc l'entièreté de ce qu'on appelle la période historique. Donc une contradiction fondamentale à l'échelle globale. Si vous zoomez, les résultats sont un petit peu plus encourageants, notamment si vous zoomez sur les régions où vous avez des observations, vous verrez que l'accord est meilleur que celui à l'échelle globale. Et bien entendu, vous me diriez, il serait raisonnable de toujours avoir plus confiance dans les données observationnelles que dans la modélisation, et donc nous devrions plutôt conclure que c'est les données observationnelles qui ont raison. Mais un des facteurs très limitants, c'est qu'en fait, les séries temporelles reconstituées à partir de données observationnelles ne couvrent à l'heure actuelle que 6 à 8% de la surface totale du plateau continental des Chelles, et donc on peut bien entendu se poser la question de leur représentativité sur l'océan côtier global, ce qui vous montre une fois de plus que pour ces analyses de perturbations anthropiques, eh bien, nous sommes toujours fortement limités en termes de données. Alors, la question suivante que l'on pourrait se poser, c'est quels sont les facteurs de changement de cette uptake de CO2 anthropique ? Donc, quels sont les drivers, si vous voulez, de cette évolution ? Est-ce que c'est l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère ? Est-ce que c'est une stimulation de la pompe biologique ? Ou est-ce une variation de la physique océanique, des courants, par exemple ? Pour obtenir une réponse à cette question, nous avons réalisé des simulations, ce qu'on appelle des simulations séquentielles, et c'est ce qui est représenté sur les cartes à gauche. Les cartes à gauche vous montrent la variation des flux induits par ces trois variables de forçage pour l'entièreté de l'océan. Donc, en haut, c'est l'augmentation de la captation de CO2 par l'océan induite par l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. La figure du milieu, donc tout ceci pour la période historique, c'est-à-dire comprise entre 1900 et 2010. La figure du milieu, ça vous indique l'impact du changement de la physique océanique. Et la figure de droite, qui m'intéresse au premier chef, c'est l'impact de la stimulation de la pompe biologique induite par des apports en nutriments accrus provenant du réseau hydrographique continental, donc des apports notamment d'azote et de phosphore qui stimulent la pompe biologique et qui donc vont aussi avoir un impact sur la captation de CO2 par l'océan et notamment par l'océan côtier. La partie droite de cette slide vous indique en fait les résultats essentiels, mais spécifiquement pour l'océan côtier. Donc nous avons extrait les résultats pour la fine bande entourant l'océan global. Et ce que l'on peut conclure, sans doute sans grande surprise, c'est que le principal facteur de changement de la quantité de CO2 captée par l'océan côtier est dû à l'accroissement du CO2 atmosphérique, que l'effet de la physique, de l'évolution de la physique est assez difficile à diagnostiquer. C'est la courbe en bleu ici. La courbe ici, ça c'est l'impact de l'évolution du CO2 atmosphérique. Mais aussi, ce que nous avons vraiment mis en évidence, c'est que l'accroissement d'export de nutriments des zones continentales augmente la production primaire de 14% et donc stimule l'uptake de CO2 par l'océan côtier jusqu'à une valeur d'environ 0,03 pétagramme de carbone par an. Si vous prenez l'ensemble des perturbations, vous arrivez à une valeur de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an en perturbation totale. Alors, je vous ai dit à un instant qu'en conditions contemporaines, le puits de CO2 côtier est de 0,2 pétagramme par an. Je vous viens de vous dire que la perturbation était de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est qu'en conditions pré-industrielles, nous devrions conclure que l'océan côtier était déjà un puits par rapport à l'atmosphère, c'est ce qui est montré ici sur cette figure, un faible puits par rapport à l'atmosphère, en contraste évident avec ce qui est en général émis comme hypothèse pour l'océan ouvert, qui est lui considéré comme une source pré-industrielle pour l'atmosphère. En fait, notre analyse sur base de modèle nous indique aussi que l'océan côtier aurait même pu être déjà net autotrophe, c'est-à-dire une production qui excède la décomposition de la matière organique au sein de l'océan côtier. Et donc, c'est une autre conclusion, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi l'océan côtier aurait pu être déjà un faible puits en conditions pré-industrielles. Alors ça, c'est un résultat qui est certainement ouvert à débat, parce qu'il est en contradiction fondamentale, je dirais, avec la vision traditionnelle que l'on avait de l'océan côtier, c'est-à-dire un océan qui est essentiellement hétérotrophe, notamment à cause des apports de matière organique continentale, mais également qui était une source de CO2 en conditions pré-industrielles. Certainement un sujet sur lequel la communauté aura l'occasion de débattre au cours des années à venir. Alors je pense que ceci termine tout doucement ma présentation, et ce que je souhaite faire maintenant pendant quelques instants, c'est de vous fournir une vision intégrée de la connexion continent-océan, ce que j'ai donc appelé les boucles continent-océan du cycle du carbone. Alors cette vision, en fait, elle est résumée sur cette figure, et ce que je souhaite proposer, c'est qu'en fait, la connexion continent-océan est en fait constituée de trois boucles. Nous avons la boucle conventionnelle, la boucle traditionnelle que j'ai appelée long range, qui est représentée en vert ici, donc la boucle longue distance, et donc qui amène de carbone des écosystèmes terrestres ou des surfaces continentales jusqu'à l'océan ouvert. Et ce que nous proposons, c'est qu'en fait, superposé à cette boucle long range, vous avez deux boucles short range, des boucles courte distance, une qui connecte les écosystèmes terrestres avec les eaux continentales, et une autre boucle qui connecte les écosystèmes côtiers avec l'océan ouvert. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que la perturbation anthropique a accéléré le turnover de carbone entre les écosystèmes continentaux et les eaux continentales, mais qu'on fait l'hypothèse que leur impact est relativement mineur sur l'océan ouvert. Peut-être plus en lien direct avec cette présentation qui se focalise sur l'océan, c'est l'idée que l'océan ouvert reçoit non seulement du carbone délivré par les rivières, c'est la vision traditionnelle, mais qu'également il reçoit des quantités tout à fait non négligeables de carbone provenant des écosystèmes côtiers, la végétation côtière et éventuellement donc les shelves. Alors, point particulier, le rôle de la végétation côtière, cette fameuse Blue Carbon Contribution, était aussi potentiellement plus importante par le passé, simplement parce que la surface occupée par ces écosystèmes côtiers, les mangroves par exemple, était beaucoup plus importante que celle que l'on a aujourd'hui. Donc potentiellement, ce puits était plus intense. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est qu'on a essayé de reconstituer le budget global du carbone, cette fois-ci en prenant compte de la présence du LOAC. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous êtes fort en maths, vous pouvez tout d'abord vérifier que nous avons reconstitué un budget pré-industriel. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit un budget contemporain, fait une estimation de la perturbation anthropique. Je ne vous en montre pas les détails, c'est pour ça que la figure est toute petite. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le cycle du carbone pré-industriel. Et ce que je vous disais, c'est que si vous êtes fort en maths, vous pourrez vérifier que c'est une vision où vous êtes à l'état stationnaire, ce qui est cohérent avec ce qui a été montré en début de colloque, une concentration en CO2 atmosphérique sur l'échelle milléniale relativement constante. Le point sur lequel moi je vais attirer votre attention, ce sera le dernier point que je souhaite discuter avec vous ou vous présenter, c'est l'idée qu'à cause de la combinaison de ces boucles, donc la boucle long range, mais également la boucle short range des écosystèmes côtiers, nous sommes arrivés à une estimation du dégazage de l'océan ouvert en conditions pré-industrielles de l'ordre de 0,65 pétagrammes de carbone par an. Alors pourquoi est-ce important ? Je ne sais pas si c'est important, mais personnellement, je pense que c'est un résultat qui, en tout cas, mérite discussion, parce que c'est une estimation qui est supérieure à la vision classique, à la vision géologique que l'on a de la connexion continent-océan. Ça, c'est ce qu'on avait pour les conditions pré-industrielles, avant perturbation humaine. Et donc, l'idée, c'est que, suite à un export permanent de matière organique des continents, eh bien, vous aviez un dégazage de l'océan ouvert de l'ordre de 0,45 pétagrammes de carbone par an. Notre estimation, qui prend en compte le rôle de la végétation côtière ou de la zone côtière dans sa globalité, indiquerait que nous sommes à une source de l'ordre de 0,65 pétagrammes de carbone par an, qui est par ailleurs plus en accord avec une étude récente, essentiellement basée, sur des méthodes observationnelles indirectes, et qui a aussi identifié qu'en conditions pré-industrielles, ou plutôt qui avait déjà identifié qu'en conditions pré-industrielles, l'intensité de la connexion continent-océan était plus importante que celle que l'on avait précédemment imaginée. Alors ceci a de l'importance parce que notamment pour la quantification du puits océanique anthropique, vous avez besoin de corriger pour les apports naturels, pré-industriels, de carbone provenant de la connexion continent-océan. Voilà, avec ceci, je voudrais terminer par quelques remarques de conclusion, plutôt déjà de perspective. Je pense qu'en termes de variabilité spatiale des flux de carbone du LOAC, des progrès relativement importants ont été effectués, et je pense que dans l'avenir, il faudra se focaliser spécifiquement plus sur la temporalité, notamment des eaux continentales et des estuaires, mais peut-être aussi plus largement, je pense que la contribution précédente l'a bien illustré, au niveau de l'océan ouvert ou au niveau des écosystèmes terrestres, il y a toute une analyse qui se focalise sur la variabilité interannuelle, ce qu'on appelle la interannual variability en anglais. Eh bien, pour les systèmes de transition continent-océan, à peu près rien n'est connu sur la variabilité interannuelle des flux, et ceci nécessitera certainement une attention particulière. Ensuite, je pense que je vous ai montré, de manière sans doute un peu spéculative, que des progrès sont effectués sur la quantification de la perturbation anthropique du budget du LOAC, qui est nécessaire que pour adapter le budget du carbone anthropique tel que réalisé par le Global Carbon Project. Mais je pense que je vous ai aussi illustré le fait qu'il n'est pas encore certainement complètement intégré, qu'il n'est pas certainement complètement contraint quantitativement, et ceci peut être pris de différentes manières, mais je pense que c'est au moins une bonne nouvelle pour les générations futures. Il reste du travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.